La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et chaque jour, des patronnes, des patrons se bougent pour traverser la crise. Des associations, mais aussi des start-up qui bâtissent déjà le monde de demain. On se lance, on ose et c'est ça, la France bouge. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. Alors journée portes ouvertes version Covid 2019 pour les musées, châteaux et autres lieux culturels ce week-end. Ce sont bien évidemment les journées du patrimoine. Alors bien évidemment, le secteur de la culture est très touché, notamment par l'absence de touristes étrangers. Mais tous ces lieux se bougent pour vous faire revenir. Alors avec Elisabeth, on va pousser les portes de tous ces endroits magiques jusqu'à 14h. Notre invité aujourd'hui, Philippe Bélaval, c'est le président du Centre des Monuments Nationaux.
À la une en effet, Emmanuel, le patrimoine français, une de nos plus belles richesses. Pourquoi ne pas visiter le château de Chambord, le palais des papes ou la conciergerie de Paris grâce à la réalité augmentée? La jeune pousse, Istovery, le permet. Son cofondateur nous dira tout dans quelques minutes.
Tintin au pays de Cheverny, ça aurait pu être le titre d'un album de la saga Cheverny. C'est le château qui a inspiré Hergé. Depuis 600 ans, c'est la même famille qui est propriétaire. C'est le tout premier château privé à avoir ouvert ses portes au public. Les secrets de Cheverny, c'est notre saga du jour dans la France bouge, 13h30.
Vous l'attendez chaque jour, les trophées Europe 1. Nous avons retenu aujourd'hui la start-up La Marquerie, un site qui met en lien des marques françaises avec des petits commerçants.
Et comme chaque jour en fin d'émission, demain au travail, comment être artisan quand on doit être en télétravail? On passera un coup de fil à un tailleur de Pierre en Bourgogne.
Bienvenue dans La France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, hein, La France bouge, ce sont toutes ces entreprises, petites et grandes, ces associations, ces institutions qui innovent, préparent le monde de demain dès aujourd'hui. Et chaque jour, elles sont au bon endroit, c'est-à-dire avec vous, à la une sur Europe 1 jusqu'à 14h. 37e journée du patrimoine ce week-end, des journées particulières et masquées. Mais c'est l'occasion d'aller découvrir ou redécouvrir tous ces lieux d'exception. Chaque année, hein, c'est un énorme succès. Alors, on ne battra sûrement pas les 12 millions de visiteurs de l'année dernière. Mais nous, avec tous ces acteurs, on va faire bouger la France aujourd'hui.
Et on va en parler avec vous, Philippe Bélaval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du Centre des Monuments Nationaux. Vous gérez plus de 100 lieux, hein, plus de 60 jardins, plus de 10 millions de visiteurs l'an dernier. Les monuments nationaux, c'est aussi bien l'Arc de Triomphe que la cité de Carcassonne ou encore le château d'Azay-le-Rideau. Comme chaque jour, notre reporter, Charlotte Barrican, est allée promener son micro dans les rues de Paris et elle a pu le vérifier. Les journées du patrimoine font rêver. Écoutez.
Au mur à pêche, dans le haut de Montreuil.
La mairie de Paris, à l'hôtel de ville, au Louvre.
La Banque de France.
L'Elysée. Et c'était super, super souvenir.
L'hôtel de la Monnaie, le ministère de la Justice, très intéressant.
Des activités, des démonstrations, ce genre de choses, des petits trucs, pas forcément des musées, des choses comme ça.
Le château de Cheverny, bah, Moulinsart.
Les journées du patrimoine, je trouve ça très intéressant et je trouve que c'est une initiative super.
On les fait assez régulièrement, même si bon, il y a toujours énormément de monde.
Philippe Bélaval, je vous vois sourire quand vous écoutez les paroles recueillies par Charlotte Barrican. Alors, on est dans La France bouge, on va regarder le verre à moitié plein parce que c'est comme ça qu'on fait entre 13h et 14h. Et oui, cette année, ces journées du patrimoine sont particulières. La crise sanitaire est là, on doit être masqué, il y a des gestes barrières à respecter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des lieux se sont organisés pour ouvrir et ça, c'est une prouesse.
Bien sûr, les monuments, dans leur grande majorité, ont rouvert le mois de mai ou le mois de juin. C'est vrai que les journées du patrimoine concentrent toujours beaucoup d'activités, beaucoup de visiteurs. Et il a fallu prendre des mesures parfois un peu contraignantes pour accueillir le plus grand nombre de visiteurs possible en toute sécurité. Mais l'essentiel, c'est de montrer qu'on est là. Parce que je crois qu'après la période très difficile qu'on a eue au début de l'année, alors qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes dans les esprits, ben le patrimoine, tous ces monuments qui ont traversé les siècles, qui ont traversé beaucoup d'épreuves, les guerres, les famines, les révolutions, montrent qu'on peut avoir confiance dans quelque chose, que la durée, l'avenir, ce sont des valeurs permanentes. Mmh. Et donc je crois que ces journées du patrimoine, elles sont encore plus nécessaires et encore mieux venues cette année que les années précédentes.
Il y a beaucoup d'inscriptions, de préinscriptions pour visiter ces lieux. C'est un des moyens qui a été trouvé pour assurer la sécurité. Est-ce que vous avez l'impression qu'il va y avoir une affluence ? très forte cette année malgré tout.
Vous savez, ça dépend de beaucoup de facteurs de toute façon tous les ans. La météo, la mode, évidemment la communication autour des différents sites. Mais ce que l'on constate, qu'on a vu cet été par exemple, c'est que effectivement après le confinement, il y a un besoin de retrouver des lieux qui sont des lieux de partage et des lieux d'émerveillement, d'évasion par rapport à un quotidien qui a parfois été triste. Donc je pense que ça va fonctionner ce week-end. Alors, je l'espère en
alors
tout
cas. Si vous dites que ça va fonctionner, et on vous le souhaite, hein, on le souhaite vraiment, comment vous vous préparez pour faire venir tout ce monde concrètement? Comment vous pouvez me rassurer, moi, pour que je puisse aller participer aux Journées du patrimoine demain ?
D'abord, nous avons, par exemple, dans les monuments les plus fréquentés, maintenu les systèmes de quotas horaires, hein, qui font que, normalement, il ne doit pas y avoir de file d'attente et trop d'entassement à l'entrée des monuments. Et évidemment aussi, on a maintenu les systèmes de sens unique pour éviter les croisements de foule. Et puis, évidemment, il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée et nous demandons le port du masque.
Ce qui est très important dans ce que vous dites, Philippe Bélaval, depuis le début de cette émission, c'est que, semble-t-il, les lieux culturels qui étaient aux bons endroits cet été, c'est-à-dire où il y avait beaucoup de touristes français, ils ont fonctionné. C'est ça que vous nous dites. On est retourné aussi parce qu'on avait besoin de culture. Ces lieux-là font une saison correcte au même titre que les groupes hôteliers qui étaient présents dans ces zones, par exemple ?
Oui, sur juillet, août, dans les grandes zones touristiques, mais également dans des zones qui étaient moins des zones touristiques, enfin, qui sont moins
connues. Vous avez profité, par exemple, du tourisme rural, du tourisme à la montagne. Tous ces lieux, cette année, ont eu plus de monde que les autres années.
Le besoin de grands espaces. Par exemple, il y a une catégorie de monuments qui a été très fréquentée et parfois qui a même battu des records de fréquentation. Ce sont les sites archéologiques. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont en plein air. Et je crois qu'il y avait vraiment, après le confinement, un besoin d'espace, de respiration.
Est-ce que ça signifie qu'en ce moment, c'est compliqué ? A-t-on besoin davantage de culture, de s'imprégner du passé ?
On a besoin de culture tout le temps, mais je crois qu'on a besoin de partage et on a besoin de repères. Et précisément, le patrimoine monumental, le patrimoine naturel aussi, c'est un outil de repérage dans le temps et dans l'espace qui me paraît, oui, tout à fait essentiel aujourd'hui.
Philippe Bélaval, président du Centre des Monuments Nationaux, vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Ça fait plaisir aujourd'hui, on parle de patrimoine jusqu'à 14h sur Europe 1 dans cette France bouge avec notre grand témoin du jour, Philippe Bélaval, le président du Centre des Monuments Nationaux.
Et avec vous aussi Bruno, bonjour Bruno de Samoreira.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le cofondateur et le PDG d'Istovery. Vous avez monté votre entreprise en 2013 avec un ami que vous connaissiez depuis 25 ans. Et alors vous avez réinventé la manière de visiter les lieux historiques. Comment ? Eh bien grâce à une tablette numérique que vous avez appelée l'Istopad, hein, que vous êtes venu avec aujourd'hui à Europe 1. Et avec votre tablette, on a une expérience très interactive. On peut découvrir ce qui n'existe plus, ce qui n'est plus visible. Hein, quand on se promène dans un château, très souvent on se dit « mais c'était comment à cette époque ?» Eh bien vous avez la réponse. Et d'ailleurs, vous avez commencé avec le château de Chambord.
Tout à fait. Donc
à l'époque de François Ier.
À l'époque de François Ier, eh bien, on va y retourner, puisqu'on va proposer aux visiteurs d'aujourd'hui de découvrir le Chambord de la Renaissance. Ça veut dire que dans chacune des salles du château, lorsqu'il y entre, à l'écran s'affiche la reconstitution historiquement validée, c'est-à-dire qu'il y a un comité scientifique qui accompagne nos travaux de façon à tout ce qu'on voit à l'écran est largement documenté et il va pouvoir découvrir les décors, les meubles, les personnages qui habitaient les lieux il y a des centaines d'années.
Alors là, je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs à la maison, en voiture, se disent « bah oui, c'est bien gentil, mais comment c'est possible ? » C'est grâce à ce qu'on appelle la réalité augmentée. On est encore nombreux à ne pas savoir véritablement ce que c'est. Donc comment ça marche concrètement sur ma tablette ? Qu'est-ce que je vois ? Comment ça se matérialise ?
Alors, c'est possible grâce au numérique. Donc d'abord, c'est de l'image de synthèse, c'est de l'infographie et on recrée en 3D des univers complets. Ensuite, c'est de la technologie qui permet d'afficher cette image là où je suis. et qui l'affiche en correspondance exacte avec le réel. Donc ce que je vois devant moi, un mur, une porte, une chaise, je vais l'avoir à l'écran, mais avec tout ce qui ne se voit plus aujourd'hui, tout ce qui a disparu. Donc celui qui est assis sur la chaise, ce qui est affiché sur le mur, les tentures, etc. Donc cette réalité augmentée, ça nous permet de faire, nous, des visites augmentées. Donc la visite augmentée, c'est l'idée que le visiteur qui est venu, qui est là pour mieux comprendre, voir, découvrir, on va lui permettre, grâce à l'interactivité, d'avoir toutes les réponses à ses questions. Donc on l'engage dans sa visite et on révolutionne son expérience.
Donc vous créez des parcours pour les visiteurs. Donc là, ils se trouvent, par exemple, ils vont au château de Chambord. Ils ont des parcours dédiés avec l'utilisation de cette tablette. Et là, ils se plongent en immersion totale. On retourne en arrière. Hein.
Alors, le visiteur, il est géolocalisé. Ça veut dire que où qu'il se trouve dans le monument, donc par exemple à la conciergerie avec notre partenaire, le Centre des Monuments Nationaux, eh bien, il va pouvoir redécouvrir les heures célèbres, mais aussi parfois très tristes. Et par exemple, visiter la cellule de Marie-Antoinette, reconstituée à l'emplacement même où elle se trouvait. Donc, c'est lui qui décide, en fonction de là où il se trouve, d'en apprendre plus, d'en découvrir plus. Parce que cette interactivité permet la personnalisation de la visite. Ça permet
c'est quasiment d'être... de la visite sur mesure.
Oui, mais c'est aussi la possibilité pour chacun d'aller à son rythme, dans sa langue, selon ses centres d'intérêt, pour découvrir la même histoire, hein, qui, elle, est unique, mais à sa façon. Et donc, ça permet d'accueillir tout le monde. Ça permet d'accueillir les petits, les grands, les érudits, et puis ceux qui sont seulement amateurs, et puis, bien sûr, les Français et les étrangers.
Parce que là, on parle beaucoup de ce qui n'existait plus et ce qui permet de voir, mais ça permet aussi de mieux mettre en valeur ce qui est présent. Et vous parliez là, par exemple, des petits. Grâce à tout ça, on peut faire des chasses au trésor virtuelles, par exemple.
Alors ça, c'est un succès fou. Parce que maintenant, pour réconcilier nos jeunes générations avec les vieilles pierres, il faut mettre un peu de ludique et un peu d'aventure. Et donc, on va proposer une chasse au trésor, ce qui fait que l'enfant veut tout voir. Il veut tout visiter pour aller au bout de cette chasse au trésor. J'ai même un tweet là sous les yeux que j'ai reçu aujourd'hui pour les journées du patrimoine. Plutôt que de dire ce que je pense des histopades, juste une anecdote, écrit notre Twitter. Quand je veux parler des châteaux de la Loire à mes enfants, je leur parle des châteaux avec les tablettes et leurs yeux s'illuminent. Donc, c'est ce qu'on vit, nous, avec nos visites augmentées dans les 15 sites où il y a aujourd'hui l'histopade en activité.
Mais c'est aussi très intéressant pour les sites dans lesquels vous avez ce genre de solution, puisque vous enregistrez anonymement, entre guillemets, notre visite. Et grâce à ça, vous savez que je vais m'intéresser à tel ou tel projet. Et je crois que, par exemple, à Chambord, vous avez découvert qu'on regardait quelque chose que Chambord estimait comme un peu mineur, beaucoup plus que certaines pièces maîtresses. Donc ça permet de repenser différemment le parcours pour le touriste.
Oui, la tablette permet à l'institution de mieux connaître son public et de mieux connaître le comportement du visiteur. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va accompagner la relance, si je puis dire, de la fréquentation, parce qu'on va aider tous nos partenaires, que je sois à Chinon, à Loches, à Blois, à Amboise ou à Chambord, pour parler de la Touraine, eh bien, je vais permettre à l'institution de mieux accueillir son visiteur, qu'il soit donc français ou étranger, jeune ou moins jeune.
Philippe Bellaval, vous êtes notre grand témoin du jour, président du Centre des Monuments Nationaux. On le voit là, le numérique entre complètement dans les visites de nos monuments, de nos châteaux. À cause de la Covid-19, la RATP, la SNCF optent pour les journées du patrimoine 100% numérique. Peut-on penser que le numérique va faire partie des solutions, entre guillemets, de sauvetage en ce moment ?
De remplacement, à coup sûr. Et on l'a vu d'ailleurs pendant le confinement où tout ce qui était visite virtuelle, tout ce qui parlait des sites et des monuments ou des musées sur Internet a connu un bond de fréquentation considérable. Mais maintenant, remplacement, je ne crois pas. Je crois plutôt qu'au contraire, c'est un complément. C'est-à-dire que d'abord, ça permet d'enrichir le parcours, l'expérience de visite sur place. Et ça peut donner aussi envie au public d'aller vers l'authentique, c'est-à-dire le lieu lui-même. Oui, un pré-parcours, un souvenir après. Voilà, ça s'imbrique
en
fait
complètement. C'est ce que vous nous dites.
Bruno de Samoréen parlait à l'instant de la conciergerie, qui est un de vos 100 monuments. Vous en avez un tout petit peu plus de 100. Est-ce que malgré tout, vous vous dites qu'à cause du Covid, vous allez accélérer ce genre de projet numérique pour avoir une offre plus complémentaire, plus vite que ce que vous auriez fait sans cela ?
C'est quelque chose à quoi nous réfléchissons de manière très active parce que nous sommes placés face à deux défis. Le public de proximité, bon, il est venu cette année parce que c'était une année un peu exceptionnelle, donc il a moins voyagé, il a moins bougé, etc. Mais il faut qu'il revienne. Donc il faut trouver les bons outils qui lui donnent envie de revenir. Et d'autre part, nous ne pouvons pas, à cause de notre vocation universelle, de la valeur universelle de beaucoup de sites patrimoniaux dont nous avons la charge, nous ne pouvons pas nous couper complètement du public étranger tant qu'il ne peut pas venir. Mmh. Et dans les deux cas, effectivement, le numérique fait partie de la panoplie d'outils à notre disposition.
Bruno de Samorera, cofondateur d'Istovery, aujourd'hui vous êtes présent dans 15 monuments historiques au musée. Vous êtes surtout en France. La suite, c'est quoi ? C'est d'aller aux États-Unis, d'aller un peu partout dans le monde ?
Alors la suite, c'est encore et toujours la France. Et on espère beaucoup continuer comme cela. Cette année, on a eu la chance de pouvoir démarrer à la Saline Royale d'Arc-et-Senans en juillet et d'accompagner le redémarrage, si je puis dire, après le confinement, avec un succès immédiat. Mais c'est aussi l'international, comme vous nous le dites. C'est pour nous l'Allemagne aujourd'hui, puisqu'on a lancé en août un premier château dans la Saxe, avec un démarrage aussi très réussi, et un deuxième château qui suivra dès le début de l'année prochaine.
La France bouge et s'exporte. Merci à vous, Bruno de Samorera, cofondateur et PDG d'Istovery.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et avec Elisabeth, on est ravis d'être avec Philippe Bellaval, le président du Centre des Monuments Nationaux. On parle des Journées du Patrimoine qui vont bien évidemment avoir lieu ce week-end. Et on a vu que vous en attendiez beaucoup. On va parler même temps un petit peu d'avenir. Je disais, vous avez une centaine de lieux. Vous allez encore en ajouter et vous allez en ouvrir des nouveaux dans les mois et dans les années à venir. Le plus gros qui va ouvrir, là, bientôt, c'est l'Hôtel de la Marine. Oui. Alors, pour ceux qui ne sont pas parisiens, on est juste à côté de l'Hôtel Crillon à Paris, face à la Seine, quasiment. C'était fermé depuis des années au public. C'est votre mission, ça, de rouvrir des monuments extraordinaires comme l'Hôtel de la Marine ?
Absolument. C'est un lieu, vous l'avez dit, extraordinaire. C'est donc l'ancien siège de l'état-major de la Marine. Et c'est un monument qui a conservé des décors du XVIIIe siècle dans un état de conservation exceptionnel et qui n'était pas visible parce qu'évidemment les activités des marins ne se prêtaient pas à l'ouverture. Donc nous l'avons repris en 2015 et depuis nous menons une importante opération qui est une opération de restauration.
Qui est l'un des plus gros chantiers que vous ayez mené de ces dernières années.
C'est un des plus gros chantiers, 130 millions d'euros en tout, presque totalement autofinancé, je tiens à le dire, parce que ça montre que le patrimoine n'est pas nécessairement coûteux. Et c'est un projet culturel global, c'est-à-dire que l'Hôtel de la Marine, c'est un lieu de visite, c'est un parcours culturel, mais c'est aussi un lieu de vie parce que c'est vraiment... D'abord, il y aura des bureaux qui seront loués. Donc, il y aura des gens qui travailleront à l'Hôtel de la Marine. Et puis, il y aura des restaurants, des espaces de loisirs.
Ça, il faut que le patrimoine soit aujourd'hui un lieu de destination, un lieu de vie. Il faut qu'on vive dans ces vieilles maisons, dans ces vieux endroits.
Ça répond, ce sont les aspirations. Toutes les enquêtes le disent. Ce sont les aspirations du public. Et c'est cohérent d'ailleurs avec ce que disait Bruno de Samorera tout à l'heure. C'est-à-dire que le public d'aujourd'hui, il est très friand d'immersion, si vous voulez. Voilà. Alors, l'immersion, c'est l'immersion dans le passé, évidemment. C'est l'expérience historique. Mais c'est aussi pouvoir passer en famille, entre amis, avec sa tribu, un moment complet. Évidemment, s'il y a un parc, c'est pas le cas à l'Hôtel de la Marine, mais c'est formidable. Une restauration. Et puis, la visite culturelle.
Un lieu complet. Faites-nous rêver, Philippe Bellaval, quel lieu vous espérez ouvrir, rénover totalement, comme l'Hôtel de la Marine, dans les années à venir ?
Vous savez que peu de temps après l'Hôtel de la Marine, le président de la République nous a confié une autre mission, qui est le château de Villers-Cotterêts. Le château de Villers-Cotterêts est une ancienne résidence royale, construite par François Ier. De très grands personnages y sont venus, puis Villers-Cotterêts, Alexandre Dumas aîné, tout le monde connaît les Trois Mousquetaires, Monte Cristo. Et depuis la Révolution, ce palais était abandonné et nous l'avons pris il y a 2 ans dans un très triste état et nous le restaurons pour y célébrer la langue française.
Oui, c'est ça, ça va être la Cité internationale de la langue française. Hein, pour ceux qui se souviennent de leur cours d'histoire, c'est parce que là-bas avait été signé le traité de Villers-Cotterêts qui avait imposé la langue française pour
en
les édits. Malgré tout, c'est un défi gigantesque parce qu'il est en ruine, ce château, aujourd'hui.
C'est un défi. Il reste très peu de vestiges historiques, quelques éléments de décor renaissance, c'est tout. Mais il y a un parc qui est magnifique, en bordure d'une des plus belles forêts de France. C'est un territoire qui offre plein de possibilités. Et justement, notre but, c'est, au travers de cette cité de la langue française, bien sûr, de célébrer l'importance du rôle de la langue française dans la construction des identités françaises, mais c'est aussi de créer une destination complète, parce que Villers-Cotterêts est plein de potentialités extrêmement intéressantes.
Pour ceux qui ne situent pas, on est à 1h30
de Paris. On est à 1h30 de Paris, 70 km au nord de Paris. On n'est pas très loin de Roissy, et on est très près de très beaux sites historiques comme Chantilly, Compiègne,
Soissons.
Alors, on vous entend, Philippe Bellaval, les monuments, les châteaux, il faut les restaurer.
Mais on a vu que c'était aussi des restaurants.
Et ce sont aussi des restaurants.
C'est l'heure du déjeuner, Elisabeth, vous avez faim.
On a besoin de moyens pour pouvoir justement restaurer tous ces endroits, tous ces merveilleux endroits. 614 millions d'euros ont été annoncés par la ministre de la Culture pour soutenir et sauver le patrimoine et les musées. Est-ce que vous vous sentez soutenu par l'État? Est-ce que c'est suffisant?
Je dirais que, après d'autres, qu'on n'en fait jamais assez pour le patrimoine dans la mesure où il est considérable. La France est un des pays qui a le patrimoine le plus riche, le plus dense, le plus diversifié. C'est un lieu commun de lire. Et quand on voit la liste des sites ouverts d'ailleurs ce week-end, on a bien la preuve. Mais là, je suis très, très reconnaissant à Madame Bachelot et au gouvernement dans son ensemble, parce que l'effort qui est fait pour le patrimoine, en plus de l'effort régulier dans le cadre du plan de relance, est effectivement tout à fait significatif, et beaucoup de sites et d'établissements vont en bénéficier, nous-mêmes, mais les cathédrales, et on sait après les incendies de Notre-Dame et de Nantes, combien cathédrales aussi sont en besoin.
Ils sont tous en besoin. Vous connaissez peut-être le château de Cheverny, Philippe Bellaval.
Oui.
Et bien là aussi, la seule source de revenus, ce sont les 350 000 visiteurs annuels. Alors là-bas aussi, on se retrousse les manches. Bonjour Charles-Antoine de Vibray.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
On est ravis de vous entendre. Vous êtes le propriétaire du château de Cheverny.
Alors on dit dépositaire. C'est un terme qui convient mieux, je trouve, que propriétaire.
Alors vous êtes dépositaire du château de Cheverny. Votre famille en est propriétaire, là je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Depuis 600 ans. Racontez-nous comment ce château entre dans votre famille il y a 600 ans.
En fait, ce château, d'abord c'est un domaine familial sur lequel il y a eu un premier château qui était d'apparence renaissance, mais sans commune mesure avec tous les monuments qui viennent d'être évoqués à l'instant. Et puis, au tournant du XVIIe siècle, ce qu'on appelle le Grand Siècle, donc notre ancêtre direct avec sa seconde épouse a construit le château de Cheverny. Donc la genèse du château de Cheverny, c'est véritablement l'amour. Et justement, ce lien a été couronné par une exposition de statues qui a été inaugurée l'an dernier, en 2019, où nous avons implanté 6 statues monumentales d'un sculpteur suédois qui s'appelle Gudmar Olofsson autour de la pièce d'eau du château pour constituer le jardin de l'amour.
Avec Elisabeth Assayag, quand on a préparé cette émission, on a découvert, alors dites-nous si on se trompe, qu'en 1922, vous avez été le premier château privé à vous ouvrir au public.
Les journées du patrimoine avant l'heure.
Pourquoi vous avez cette idée?
Alors, si on n'est pas le premier, on n'est pas là pour faire ce genre de course, si je puis dire, mais c'est uniquement des constats historiques. On est dans les tout premiers, très vraisemblablement.
Mais d'où vient cette idée? Parce qu'aujourd'hui, on a eu l'impression, là encore, en préparant l'interview avec Elisabeth, ça ne va peut-être pas vous plaire comme image, monsieur le marquis, mais vous êtes une PME culturelle aujourd'hui.
Ah mais on le revendique, nous sommes une PME culturelle. Et d'ailleurs, mon grand-oncle Philippe de Vibray, qui a ouvert son château au public en 1922, c'était une démarche totalement iconoclaste à l'époque, et il a subi de la part de ses pères PAIRS énormément de reproches, mais c'est grâce à ça que je pense que Cheverny sera en quelque sorte éternel, dans la mesure où la jeunesse de Cheverny, c'est véritablement le public. Et je crois que si d'aventure, même si je gagnais une somme considérable au loto, éventuellement j'irais me reposer ailleurs, mais Cheverny restera perpétuellement ouvert au public, et j'en veux pour preuve le traumatisme des 76 jours de fermeture à l'occasion du Covid-19, où un week-end de l'Ascension, je me suis retrouvé mais absolument seul dans le château. Il faisait un temps magnifique, le jardin était somptueux, et c'était sinistre. Mais sinistre.
Mais c'est ça, il faut du monde, hein, et c'est votre seule source de revenus, hein, c'est 350 000 visiteurs annuels. Comment vous gérez un château comme une petite entreprise? C'est quand même extraordinaire. Vous êtes un petit patron.
Un château comme une petite entreprise, comme un garagiste gère son garage comme une petite entreprise, avec chacun ses spécificités. Donc moi je rencontre, je pense qu'on a des problématiques aux deux tiers communes avec tous les gérants de PME, qui sont la comptabilité, la fiscalité, la gestion du personnel, et puis après on a nos spécificités, le garage c'est la voiture, et nous...
Mais vous avez deux spécificités, vous avez l'histoire de la famille, ce domaine extraordinaire, et puis cette chance que Hergé ait décidé de s'inspirer de Cheverny pour faire... Moulinsart, voilà. Là nos auditeurs entendent la musique justement de Tintin. Ça a été votre chance inouïe, comment ça s'est passé?
Alors comment ça s'est passé, en fait on ne sait pas trop. La seule chose c'est que Cheverny est le modèle avéré de Moulinsart, puisque d'abord Hergé le dit lui-même dans un interview qu'il accorde à la RTBF, et grâce à nos partenaires et amis Nick et Fanny Rodwell, il m'a été donné l'occasion, en consultant leurs archives de l'avenue Louise, donc à Bruxelles, de tomber sur le dépliant de Cheverny qui était en circulation entre les deux guerres, que Hergé a pu se procurer. Et sur ce dépliant historique, on voit au crayon de papier la silhouette de Tintin et de Haddock qui remontent l'allée centrale vers le château.
En tout cas, merci à vous, Charles-Antoine de Vibré, d'être venu nous parler, de nous avoir parlé du château de Cheverny. Ça nous a fait rêver, on a envie d'y aller, hein, Emmanuel.
Effectivement, on va aller y faire un tour. Bientôt, on va délocaliser La France Bouge.
Pourquoi
là-bas.
Pourquoi pas ?
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, on parle patrimoine, mais pas que dans cette émission. C'est parti pour les trophées européens. Ils osent, ils se lancent et on les écoute chaque jour pitcher devant l'œil attentif et exigeant de notre grand témoin du jour. Mais de vous aussi, chers auditeurs, là à la maison en voiture, il va falloir vous faire un avis.
Eh oui, avec vous, Hamza Chaoui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de la Marquerie. Alors vous faites partie de ces personnes qui ont osé. Parce que vous avez créé votre site internet, votre plateforme, en plein confinement, c'est-à-dire au début du mois de mars. La Marquerie, M-A-R-Q-U-E-R-I-E, j'appelle, c'est une plateforme qui met en relation des marques françaises indépendantes avec des commerces de proximité, des commerces indépendants. Et donc l'idée, hein, on le comprend, c'est de mettre en relation ces petites marques et de favoriser leur distribution. Je m'arrête là, vous allez tout nous dire pour le pitch. C'est parti, vous avez 1 minute 30.
Merci. Déjà, je vous remercie parce que vous avez fait la moitié du pitch, mais je vais quand même reprendre. Donc, en fait, Marquerie met en relation donc, des marques françaises indépendantes avec des commerces locaux. C'est une start-up que j'ai démarrée avec Samy, mon frère, qui est donc mon cofondateur, et nous sommes tous deux fils de commerçants. Et l'idée part d'un constat qui est très simple. Quand on est une jeune marque qui émerge, se faire référencer dans des magasins peut être extrêmement compliqué quand on n'a pas les contacts ou le réseau de revendeurs, sans compter les salons qui se sont récemment annulés. Après, quand on est commerçant, c'est un peu la même chose. C'est dur de référencer de nouvelles marques, c'est coûteux et ça consomme du temps. Donc avec Marquerie, ce qu'on propose, c'est de faire de la curation de marques françaises et engagées. Donc on va, on sélectionne des marques, on les approche. Ensuite, on négocie avec ces marques-là de nous rejoindre avec un montant de commande minimum qui soit bas. On discute avec eux des marges, etc. Toutes les marques qu'on référence sont des marques qui sont françaises, qui défendent l'une des valeurs qui nous tient à cœur, qui sont éco-responsables, fait main, des produits issus de l'upcycling et des produits locaux, etc. Et donc, pour le commerçant, ne reste plus qu'à venir sur le site, passer commande à partir de 100 euros et avec quelques centaines d'euros, peut constituer un panier constitué de plusieurs marques. Et je profite des dernières secondes pour juste remercier tous les commerçants qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui. On essaye vraiment de les accompagner et accompagner les marques pour les aider à prospérer en ces temps difficiles.
Très bien.
Vous les avez remerciés. Bravo Merci. Pour ce pitch.
1 minute 30, bravo. Hein, j'avais pas tout dit puisque vous avez pu aller jusqu'à la minute 30. Je vous tourne tout de suite vers notre grand témoin du jour, le président du Centre des Monuments Nationaux, Philippe Bellaval. Qu'est-ce que ça vous inspire et je vous laisse poser votre première question.
Bah, écoutez, je crois qu'on est en plein dans le même sujet, au fond, parce que produits de circuits courts, entreprises de proximité, publics du voisinage, patrimoine local, patrimoine vernaculaire, tout ça, c'est la revitalisation des territoires. Mmh. Et je crois que cela doit fonctionner ensemble, doit être conçu de façon globale. Je suis persuadé que parmi les entreprises, d'ailleurs, que la marquerie référence, il y en a beaucoup qui exploitent des savoir-faire ou des produits qui en eux-mêmes ont un caractère patrimonial. Parce que le patrimoine, c'est pas que des pierres, c'est pas que...
c'est on aussi pourrait sûrement y trouver un paquet de marques que vous créez, vous aussi, puisqu'au sein même de chacun de vos musées nationaux, il y a souvent une marque locale.
Absolument.
Parce que c'est un moyen de gagner de l'argent pour vous aussi.
Il y a aussi une structure qui regroupe les entreprises du patrimoine vivant, justement, qui continuent des traditions dans le textile, dans l'alimentaire, la gastronomie, etc. Voilà. Donc, la France regorge comme ça de trésors et il faut partir à la découverte. Notamment ce week-end avec les journées européennes.
Là, je pense qu'on ne pouvait pas mieux vous vendre, Hamza Chaoui. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça répond à un vrai problème du moment. Et on le voit, c'est une des grosses pistes du plan de relance, numériser tous ces petits commerçants qui n'auraient pas les moyens d'avoir un site internet correct. C'est ça que vous leur offrez, de la visibilité, mais aussi une forme de numérisation pour avoir un circuit de commerce derrière. C'est ça l'idée ?
Absolument. Et d'ailleurs, les commerces locaux, pendant beaucoup d'années, ont considéré que le commerce sur internet était plus un concurrent qu'un allié. Et là, ces derniers mois, on est en train de voir que c'est en train de changer et que les commerces locaux sont en train d'utiliser la technologie pour servir leur cause. Et c'est à ça qu'on essaie de contribuer.
Vous avez convaincu combien de commerçants depuis le début de l'aventure, là, depuis le mois de mars, que ça ne doit pas être facile en ce moment
Alors, c'était pas facile au début, mais il y a vraiment un effet boule de neige et il y a un très bon bouche à oreille. Et aujourd'hui, il y a 25% des marques qui sont référencées sur nos sites qui ont déjà reçu des commandes.
Mais ils payent combien, les commerçants ?
Les commerçants ne payent rien.
C'est qui paye ?
La marque paye.
Mais 100 euros, je crois.
Non, il paye. Non,
parce que quand on va sur votre site, première chose qu'on voit, c'est pour 100 euros.
Oui, 100 euros, c'est pour la marchandise, en fait. Donc, c'est un minimum de 100 euros de commande. Après, nous, on est rémunérés sur la base d'une commission. Mais dans le contexte de la crise qu'on est en train de passer, on a décidé de ne pas prendre de rémunération du tout.
Ah oui ?
Jusqu'au 1er décembre. Donc, avis aux commerçants qui nous écoutent, c'est le moment
c'est de profiter. C'est le moment de
venir. Et c'est ça, la France qui bouge. Merci à vous, Hamza Chaoui. Vous êtes le cofondateur de la marquerie. Et surtout, donnez-nous de vos nouvelles. Hein. Ça nous intéresse toujours à la France bouge.
Et si vous êtes en train de nous écouter, que vous avez un projet, que vous avez envie d'être challengé par notre patron ou notre patronne du jour, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez nous envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
La France bouge, dernière partie de votre émission avec cette séquence Demain au travail. Et nous sommes pour le moment toujours avec notre patron du jour, Philippe Bellaval, le président du Centre des Monuments Nationaux.
Et nous sommes aussi avec vous, Nicolas Bonnet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artisan tailleur de pierre en Bourgogne. Vous travaillez dans l'entreprise familiale, l'atelier Nicolas Bonnet. Vous faites des escaliers, des cheminées, des monuments et vous n'avez jamais cessé de travailler, même pendant la crise. Et depuis la rentrée, vous avez dû reprendre une activité commerciale. Mais votre métier, c'est un métier très sensitif où il faut toucher. Comment vous avez trouvé des solutions ?
Alors, les solutions, il a fallu les trouver. Un artisan, ça trouve des solutions. On est là pour ça en permanence. Les premières solutions, elles ont été des solutions de bon sens, de prendre soin de la petite équipe qui était restée travailler avec moi. Comme vous l'avez dit, on est une petite entreprise pseudo-familiale, pas familiale de sang, mais familiale de cœur. Je travaille avec des jeunes ouvriers qui voyagent, des compagnons, et donc j'ai la chance qu'ils habitent sur place. Donc je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Ils m'ont dit, écoute, nous, si tu as du travail, on reste. Mais bien sûr, il a fallu, j'avais la responsabilité de prendre soin d'eux, donc on a fermé la porte de l'atelier, on est resté entre nous, et puis on a pris soin les uns des autres.
Et du coup, ça s'est matérialisé comment ? Maintenant, qu'est-ce que vous retirez de cette aventure humaine ?
Dans un premier temps, on ne savait pas trop quoi faire, masque, pas masque, gel, c'était difficile à trouver à l'époque. Bon, moi j'ai pris des précautions, par acquis de conscience, j'ai été chercher des masques et du gel, mais j'ai galéré à en trouver, mais voilà. Et puis surtout, on a essayé voilà, d'avoir peu de contacts, c'était le confinement, et donc on a pris garde à peu sortir de l'entreprise. Au niveau
mais
de
notre
travail...
Mais ce qui change tout votre métier, parce que quand on est dans l'artisanat comme vous, on touche, on s'approche, on doit être en contact, j'imagine que les réunions de chantier, il faut les réinventer complètement aujourd'hui.
Exactement, puis ça a été un gros stress. Ça a commencé par des visioconférences, mais il a bien fallu à un moment aussi aller sur les chantiers. On se doit de voir ce qui se passe, donc distanciation sociale, masque, et puis une très grande attention, surtout moi où je fais très attention, c'est quand je vais chez des personnes un peu âgées, on sait qu'ils sont très fragiles, donc soit j'annule le rendez-vous, soit vraiment les précautions sont ultimes, on essaye au maximum de faire ces rendez-vous-là.
Et ce sera peut-être une nouvelle façon de travailler qui va perdurer. Hein. Philippe Bélaval, notre président du Centre des Monuments Nationaux, comment vous avez réussi à poursuivre les travaux qui étaient en cours pendant la crise et post-crise ?
Pendant la période la plus sévère, je dirais, du confinement, on a mis les chantiers à l'arrêt. Hein. C'était la consigne que l'on avait reçue. Et on ne les a redémarrés que lorsqu'on a pu le faire dans des conditions sanitaires sûres, sur la base du protocole qui a été mis sur pied par les professions du bâtiment et des travaux publics avec le ministère du Travail et le ministère de la Santé. Mais si vous me permettez de rebondir sur ce que disait votre
Nicolas
invité,
Bonnet, tailleur de pierre en Bourgogne.
Voilà, c'est qu'on est avec les tailleurs de pierre précisément, mais il y a beaucoup d'autres exemples, dans le cadre d'un métier patrimonial, c'est-à-dire d'un savoir-faire qui ne doit surtout pas disparaître et que les travaux sur les monuments historiques font vivre et permettent d'entretenir, de transmettre d'une génération à l'autre. Et je dis à M. Bonnet, je demande à M. Bonnet d'être...
De vous passer un coup de fil parce que vous en avez besoin de tailleurs de pierre.
Si on veut, comme le souhaite légitimement le gouvernement, dépenser vite l'argent du plan de relance et contribuer à la relance, eh bien on va avoir besoin effectivement d'entreprises dynamiques, inventives
et compétentes. Voilà. Vous entendez, message reçu ?
J'entends, c'est très très clair et comptez sur moi.
Eh bien c'est parfait, merci à vous en tout cas Nicolas Bonnet de l'entreprise familiale, l'atelier Bonnet. Vous êtes artisan tailleur de pierre en Bourgogne, c'est la fin de votre émission. Merci à notre grand patron du jour, Philippe Bélaval, le président du Centre des Monuments Nationaux.
Merci. Un grand merci effectivement de nous avoir accompagnés pendant toute cette émission. Bonne journée du patrimoine à vous tous, à vous et à nos auditeurs à qui peut-être on a donné finalement envie d'y aller. Et on se retrouve lundi à 13h pour une nouvelle France Bouge. On parlera de quoi, Elisabeth ?
Eh bien, on va parler des jeux. On joue beaucoup au loto en ce moment et on sera justement avec la Française des Jeux.
Et oui, il paraît que c'est une entreprise qui résiste à toutes les crises. On va vérifier cela lundi. Allez, très très bon week-end à vous, Elisabeth, et à tous nos auditeurs.
Très bon week-end, à lundi et dans un instant, Christophe Ondelat.